Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de Sporama, votre émission qui parle du sport sur VOA Afrique. L'équipe n'a jamais changé et on retrouve à Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Alizé, bonsoir à tous.
De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Alizé, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba est lui à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Il est de retour à Columbus dans l'Ohio, Ahmedine Sy. Bonsoir Ahmedine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis fidèle au poste, Lawadine Kosuro avec moi dans ce studio. Lawal, bonsoir.
Élisée, bonsoir.
Dans la charpente de l'émission ce soir, les championnats d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball à Niamey au Niger. Niamey où se jouent également les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans de football. Et puis on connaît les finalistes des deux compétitions africaines des clubs. Sporama, c'est parti. Football pour commencer, avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans dans la zone B UFOA qui se déroule à Niamey au Niger. Plus qu'une journée et on connaîtra les deux qualifiés pour la phase finale prévue l'an prochain en Égypte. Lawal, deux belles affiches demain, Bénin Burkina Faso et Nigeria Côte d'Ivoire.
Oui, et il fallait pour les Béninois faire en sorte de ne pas affronter le Nigeria. C'est réussi le Burkina, c'est peut-être le moindre mal. Mais les deux affiches sont assez belles et ça désignera les deux représentants de cette zone au niveau de la CAN. Il faut dire déjà que c'est les plus belles équipes de la zone qui sont en finale, on va le dire comme ça. Mais il faut rappeler que le foot des moins de 20 ans ou des catégories d'âge au niveau de la CAF n'est pas vraiment pris au sérieux. Ça fait que la relève est souvent difficile à avoir. Et quand on se rappelle un peu les exploits des Nigériens, par exemple, dans les différentes catégories d'âge, et que après on les retrouve dans la catégorie senior qui n'arrive pas à s'imposer, il y a un problème. Les Ghanéens, pas pareil. Donc, il faut qu'on revoie la structure des différentes catégories de foot au niveau du continent pour permettre
la formation et surtout
le suivi. Le suivi, la question de l'âge, c'est vrai que la triche sur l'âge, elle est généralisée au niveau du continent, mais on a commencé par trouver des solutions pour ça là, au moins. Mais quand les gens finissent pas exceller, les Africains ont été champions du monde des différentes catégories, par endroit, et que après qu'on retrouve pas toutes les valeurs de ces différentes catégories dans les seniors et que beaucoup disparaissent sous les radars, il y a un problème. Donc, il y a un problème de formation d'abord et puis un problème de suivi après les différents exploits. Donc, il faut qu'on revoie, qu'on reformate le système afin que les différentes catégories puissent prospérer. Parce que quand on prend les autres équipes occidentales, on sent qu'il y a un suivi et les gens ne viennent pas en senior comme parachuté. Non, ils viennent parce qu'ils sont passés par les différentes catégories. Malheureusement, en Afrique, on fait les choses à moitié et puis on s'en émeut guère parce que on n'est pas là peut-être pour la promotion du football africain.
Et voilà qui est clair. Quant aux qualifications de la zone UFOA, elles auront lieu en septembre du côté de la Mauritanie. Ahmedine, c'est une première pour le pays d'abriter les tournois de qualification dans cette zone.
Tout à fait, Élisée. Je pense que le fait d'organiser ce tournoi de l'UFOA qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Mauritanie est une très bonne chose, hein, car les Mauritaniens ont les moyens de bien organiser cette compétition zonale, puisque les responsables du football mauritanien ont déjà prouvé que leur pays avait les épaules larges pour abriter ce genre de joute. En tout cas, ils l'ont démontré, hein, en organisant de fort belle manière la CAN U20 en 2021. Ça s'est élisé enfin que les deux finalistes de ce tournoi UFOA valideront le ticket pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans qui est prévue l'année prochaine. Ce sera sur les bords du Nil égyptien. Élisée.
On vient à vous, Amine. Tout reste encore flou quant au pays du tournoi de la zone UNAF.
Nous sommes un peu dans le flou, dans la mesure où l'UNAF n'a pas encore précisé les dates et le lieu de ces éliminatoires, où devrait se dérouler ce tournoi, visiblement en Égypte. Et puis, dans quelle mesure les pays vont pouvoir se préparer sereinement? Il va falloir peut-être penser à une période estivale pour pouvoir réunir les 5 pays d'Afrique du Nord et voir dans quelle mesure ces sélections seront prêtes à affronter ce nouveau défi, ce nouveau challenge qualificatif pour le championnat d'Afrique U20. La dernière fois, ça avait eu lieu en Tunisie, quelques semaines avant le championnat d'Afrique qui avait été organisé en Mauritanie. Il se peut qu'on opte également pour cette alternative. Donc on verra dans quelle mesure ces pays vont pouvoir s'accorder sur des dates et sur un lieu bien précis pour pouvoir affronter ce challenge éliminatoire pour la catégorie des U20.
Merci Amine. La COSAFA devrait organiser ses éliminatoires en Eswatini du 6 au 16 octobre prochain, même période pour la CECAFA, probablement au Soudan. Alors, Valdo, c'est une formule zonale adoptée désormais par la CAF pour les compétitions des jeunes.
Élisée, je pense que cette formule a été minutieusement étudiée et adoptée pour un objectif bien précis, celui, entre autres, de faciliter la participation à ces éliminatoires de plusieurs nations dans certaines zones et diminuer, de quelque manière que ce soit, les coûts financiers dans une certaine mesure, puisque les matchs en aller-retour s'avèrent un peu plus coûteux que l'actuelle formule, ainsi permettre à ce qu'il y ait une certaine compétitivité dans chaque zone et surtout une grande participation à ces éliminatoires quand on sait que le football d'âge sur le continent est l'apanage de quelques pays seulement. Et là, la CAF veut bien élargir la participation et surtout la présence indispensable de chacune des zones au tournoi final, puisqu'il est évident qu'au niveau de certaines zones, cette formule aura des conséquences peu acceptables, puisqu'elle va réduire l'effectif des participations au tournoi final, étant donné que chaque zone n'a droit qu'à 2 tickets qualificatifs.
Cette CAN U20, qui va réunir 12 sélections, on le rappelle, aura lieu en Égypte du 18 février au 12 mars 2023. Fait à présent le point sur les interclubs de la CAF. Les deux compétitions africaines des clubs ont dégagé leurs finalistes en Coupe de la Confédération. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates, tombeurs des Libyens d'Ali Tripoli, 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, seront opposés aux Marocains de la Renaissance de Berkane qui ont sorti les Congolais du TP Mazembe. Jules, le club de Soweto, victorieux, retrouve la finale de cette compétition une seconde fois après celle de 2015.
Élysée, comme toutes les équipes du dernier carré d'as, des deux coupes de clubs qui ont vu à 3 occasions des formations prendre une avance substantielle sur l'adversaire du jour, souvent à l'extérieur de surcroît en marquant beaucoup de buts, les Pirates de Johannesburg, à l'exemple des Kérod d'Al Ahly ou des Marocains du Wydad, ont choisi de gérer sereinement les acquis de la première manche. Et revoilà Orlando Pirates en finale d'une Coupe africaine des clubs depuis 2015. C'est une bonne nouvelle pour cette équipe mythique et plus largement un football sud-africain en quête de rebond depuis une éclipse qui perdure. Mais en face, la confrontation plus relevée entre le TP Mazembe et Berkane prépare aux représentants sud-africains une opposition beaucoup plus éprouvante en finale. Cependant, c'est déjà une victoire que d'y être.
Une deuxième finale que ne verra pas Mazembe, renversée par les Marocains de Berkane qui l'avaient pourtant battu à l'aller. Valdo, grosse désillusion pour les Corbeaux de Lubumbashi qui sont passés totalement à côté de leur match.
Alors qu'ils avaient réussi à faire les plus durs en déplacement avec cette belle réaction de Kinzumbi à l'ouverture du score des Marocains, Élisée, c'est en seconde période que les choses se sont gâtées pour Mazembe. Avec ses cartons rouges infligés à Mwapé à la 64e minute, à 10 contre 11, les matchs n'étaient plus le même. Berkane a poussé sur l'accélérateur avec d'abord ses deuxièmes buts qui est venu assommer les Corbeaux et donner un peu plus d'espoir aux locaux, et qui en ont profité pour assurer avec deux autres buts pour s'offrir non seulement la victoire, mais la qualification en finale de cette Coupe de la Confédération. Perdre est une chose pour Mazembe, mais sur le score des 4-1, c'est là que Berkane a frappé fort en arrêtant le parcours de Mazembe à l'entrée de la finale. Les Corbeaux ont simplement été rattrapés par leurs démons des mauvaises prestations en déplacement qui semblaient pourtant s'éloigner davantage. Ça ne sera donc pas une finale à jouer après celle de 2017. Il faut tout refaire la saison prochaine.
Le Maroc place donc ses deux clubs en finale cette saison. Berkane jouera sa troisième finale de Coupe de la CAF en 4 ans. Ce sera vendredi à Uyo au Nigeria et pour son entraîneur Florent Ibengue. C'est une qualification méritée puisque l'envie y était.
On avait envie d'aller en finale. On avait envie de montrer un autre visage que ce qu'on a montré à Lubumbashi. À Lubumbashi, on a défendu et on n'a pas joué comme si on ne savait pas jouer au foot. Donc pendant toute la semaine, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on joue. Et au niveau du championnat national, on est parmi les meilleures équipes au niveau de la possession du ballon. Donc il fallait juste qu'on reprenne notre jeu. Et on l'a repris. Et au gré de leur expulsion, pour pouvoir marquer les buts qui sont arrivés.
En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca, qui a écarté les Angolais du Petro Atlético, retrouvera les doubles tenants du titre égyptien d'Al Ahly du Caire. Amine, une saison réussie pour le Maroc, même si la finale de la Ligue des Champions prévue sur son territoire fait polémique.
Carton plein pour les clubs marocains. Commençons tout d'abord par le Wydad de Casablanca, qui était venu chez lui avec un succès contre les Angolais de Petro sur le score de 3-1. La rencontre semblait largement à la portée des Casablancais lors de la manche retour, surtout qu'ils comptaient sur la présence de leurs supporters. Toutefois, on a vu un visage du Wydad complètement méconnaissable, un Wydad qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'équipe qui avait été alignée et à l'état d'esprit qui avait été entrevu lors du match retour contre Belouizdad. Une équipe heureuse, une équipe recroquevillée sur elle-même qui cherchait avant tout à faire tourner le ballon, le chrono, et qui a eu quelques frayeurs face au champion d'Angola, score 1-0, pour un Wydad qui retrouve la Ligue des Champions et sa finale pour la 3e fois en 5 ans. Retrouvailles avec l'Ali comme en 2017, comme en 2017 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, envers et contre toute polémique. De l'autre côté, la renaissance sportive de Berkane se devait d'effectuer une remontada contre le TP Mazembe. Ça a été plus compliqué que prévu, puisque les Berkanais se sont retrouvés à 1-1 après 11 minutes de jeu. L'ouverture du score de Bakr El Hilali n'ayant servi à rien du tout, puisqu'il y a eu une riposte des corbeaux de Mazembe dans la minute qui suivait. Il a fallu attendre la dernière demi-heure de jeu, l'expulsion d'un joueur congolais, pour que le match puisse se décanter en faveur de Berkane avec 3 buts. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, grâce à l'arbitrage, il y a un doublé de Youssef Fahli qui permet à Berkane de retrouver la finale contre Orlando Pirates vendredi prochain à Oyo, Nigeria. Berkane atteint la finale de cette compétition pour la 2e fois ou pour la 3e fois en 4 ans. Autant dire que c'est une équipe qui a désormais l'ADN de la C3 africaine et qui est capable de ramener un nouveau trophée pour le football marocain.
On en vient maintenant à la décision de la CAF d'organiser la finale de la Ligue des Champions au Maroc. Une décision qui a suscité colère et indignation côté Al Ahly, qui y voit un avantage en faveur du Wydad de Casablanca qui sera à domicile. Les Égyptiens, double tenant du titre, qui ont saisi le TAS, ont également écrit à la CAF qui, en réponse, rejette la faute sur l'ancienne direction qui a abandonné la formule des allers et retours. L'instance a ensuite donné des précisions sur le processus qui a conduit à la désignation du Maroc. À Médine, l'idéal aurait quand même voulu que le lieu de la finale soit connu des mois plus tôt.
Oui, Élisée, c'est vrai qu'on devait connaître le lieu de la finale de la Ligue des Champions depuis longtemps, mais pour moi, le fait d'organiser ce dernier acte de la plus prestigieuse compétition africaine au Maroc ne devait pas susciter une colère et indignation du côté de Al Ahly, car les clubs ont souvent joué des finales à domicile de ces genres de compétitions. Je veux dire, quand c'est une compétition où la finale se joue sur un match, cela ne doit pas poser de problème. En tout cas, il y a eu des cas comme ça au niveau de la Ligue des Champions en Europe. En 2012, le Bayern de Munich a joué et perdu une finale à domicile face à Chelsea de Didier Drogba. Donc, cela ne doit pas poser de problème. On est des sportifs. Il faut être sportif jusqu'au bout en respectant les règles du jeu Élysée.
Jules Valentin Ngoué, malgré les différentes explications, l'instance fêtière pourrait faire mieux.
Tu sais, Élysée, il est difficile de s'accommoder à l'exercice périlleux de pompiers pyromanes sans courir le risque de se brûler le nez. Lorsque les nouveaux dirigeants de la FIFA ont manifestement été heureux en 2017 lors de la victoire électorale d'une équipe progressiste menée par le malgache Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, déclarée vieillotte, nul ne doutait qu'une série de réformes audacieuses calqué sur la réalité du football business cher à l'UEFA, allait s'abattre sur l'Afrique. C'est ainsi que cette idée de jouer en une seule manche, la finale de la Coupe des clubs a vu le jour. Mais il était bien précisé que ce serait un terrain neutre. La seule réserve justifiée concernant le remplissage des gradins par un public jusque-là motivé par la seule présence de son équipe fétiche sur la pelouse. Les habitués des comparaisons discutables nous diront qu'en Europe, il arrive que la finale se joue sur le stade d'une des équipes présentes. Mais il faudrait leur rappeler que, dans tous les cas, sur ce continent surdéveloppé, la moitié des places est souvent réservée aux supporters de l'équipe visiteuse qui ont tous les moyens de déplacement, d'hébergement, des équipements et structures adaptés pour se déplacer facilement en Europe, ce qui est loin d'être le cas pour les Africains d'Afrique. Alors, sur le plan éthique, faire jouer la finale à Casablanca devant un public tout acquis au Wydad est une forfaiture inqualifiable qui discréditerait pour de bon la CAF et le Maroc clairement concernés ou impliqués depuis lors dans des cas litigieux.
Merci Jules. La base est faussée depuis lors, Lawal. Et pourtant, la CAF devrait s'engager à respecter les principes d'équité, de justice et d'égalité de tous les clubs.
Oui, Élisée, il y a qu'on ne comprend pas les décisions de la CAF. On ne peut pas concevoir que l'on puisse vouloir jouer une finale entre deux équipes et que l'on choisisse le pays de l'une des équipes pour jouer le match. Élisée, on devrait pouvoir aider les gens à mieux comprendre les choses et à ne pas se retrouver dans des situations du cas de ce genre en finale. On aurait, pendant qu'on faisait les tirages au sort, triché un peu l'UEFA, même si on ne la copie pas. Faire le tirage au sort des stades homologués par la FIFA. On peut prendre 10 stades et tirer au sort pour la Coupe CAF et pour la Champions League. Là, on sait d'avance où ça va se jouer. Et si par bonheur, pour une équipe, ça se joue sur son stade, tant mieux.
Que cette équipe arrivait en finale,
oui,
on allait comprendre.
Ça, sur son stade, tant mieux. Mais aujourd'hui, qu'on décide à 2 semaines, qu'on dise qu'on va au Maroc, alors qu'on sait qu'il y a un club marocain qui est qualifié pour la finale, on veut peut-être favoriser le Maroc. Je n'ai pas de mots pour justifier cette aberration de la CAF pour cette finale-là, Élisée.
Et sur le terrain, ce n'est pas encore gagné pour le Wydad de Casablanca. Pour rappel, la finale de la Coupe de la Confédération aura lieu vendredi et celle de la Ligue des Champions la semaine suivante. Handball pour finir, avec les championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe à Niamey au Niger et les Béninois de Flouez ne seront pas dans le dernier carré. Ils ont été battus après prolongation 26 à 33 par les Camerounais de FAPO. Déçu, le manager général du club Aimé Sebio relève le manque d'expérience de ses joueurs.
Je peux vous dire qu'on est allé en prolongation pour indiscipline tactique et manque d'expérience des joueurs. C'est normal. D'accord ? La Fédération Béninoise doit comprendre maintenant qu'à chaque fois, il faut que nous participions à cette campagne-là pour donner de l'expérience à nos joueurs. C'est important. À 29 minutes, 12 secondes, on a déposé le carton de temps mort. On a placé les consignes. Il faut aller chercher la faute. Il faut tourner la balle. Dans les dernières secondes, on monte, on frappe. On a terminé le match en attaque. Cette consigne n'a pas été respectée. Donc ça, c'est une bonne campagne. Ça va nous servir de leçon. Ça va nous servir de beaucoup d'enseignements.
Lawal, ce sont les réalités du haut niveau.
Non, Élisée, j'ai suivi le manager du club. C'est comme on dit, c'est métier après la mort. Je pense que les Béninois ont manqué d'expérience, c'est vrai, il a relevé, mais il aurait pu trouver une autre stratégie pour maintenir, parce qu'il menait.
Oui, 25-24 ans.
Et 40 secondes avant la fin, on ne devrait peut-être pas faire les choses que les joueurs ont faites, mais le manque d'expérience a joué, et ça va permettre aux joueurs de savoir que quand on est dans des situations du genre, par rapport au haut niveau, il faut vraiment jouer gros, grand, il faut avoir du cran, ils ont manqué de cran. Ils ont manqué de sérieux sur la fin. C'est une expérience acquise pour les joueurs de Flowers du Bénin et on espère qu'ils vont revenir plus forts et ils vont en profiter pour se relever et faire davantage les années à venir réaliser.
Pendant ce temps, les Camerounais continuent donc leur chemin et retrouveront le Zamalek, facile vainqueur des Éthiopiens de Krikos, 54 à 31. L'autre demi opposera Al Ahly aux Ivoiriens de Don Bosco. Amine Birouk, sans surprise, les deux clubs égyptiens patron à Niamey.
Les deux géants sont de grands prétendants au titre de champion d'Afrique à chaque édition. Elie Zamalek sont des références dans le domaine du handball africain et même mondial. On se rappelle tous de la participation de la sélection égyptienne au dernier championnat du monde. Au JO, ils ont fini quatrième et c'est l'ossature de l'équipe d'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte est un pays formateur, exportateur de grands handballeurs. Et l'Égypte est dotée de structures au niveau des clubs qui permettent d'être compétitifs à chaque compétition, d'être présents à chaque rendez-vous dans différentes disciplines sportives et notamment dans les sports co. On peut parler de basketball, de volleyball, de handball. Toutes ces disciplines sont trustées par les Zamalek sur le plan continental et il n'y a pas de raison pour que cette tradition ne se poursuive pas, y compris lors de cette édition 2022.
Chez les dames, le Petro Atlético, vainqueur 35-12 des FAB du Cameroun, s'offre sa troisième victoire de rang. Jules, rien n'arrête les Angolaises qui sont en tête dans cette poule unique.
Élysée, plus que leurs homologues masculins, les handballeuses angolaises imposent une domination sans partage à tous les niveaux sur le continent, à l'exemple de ce que les footballeuses nigérianes ont fait deux à trois décennies durant, avant que l'adversité ne se renforce autour d'elle. Les raisons du succès de ces Amazones des temps modernes n'ont de secret pour personne. Une organisation et une prise en charge très professionnelle des équipes et des actrices, sponsorisées par de puissantes sociétés, pour la plupart pétrolières, qui ne laissent rien au hasard, ni les infrastructures, les conditions salariales, la formation ou le suivi des carrières, même l'encadrement. Petro Atlético est un pur produit de cette dynamique. Les Angolaises sont donc tout simplement professionnelles, ce qui les distingue très nettement de leurs potentiels adversaires sur le continent. Les sociétaires camerounaises des forces armées et de police qu'elles viennent d'étrier par 31 buts à 15 pour leur troisième sortie d'affilée l'ont appris à leurs dépens. On voit mal les Angolaises laisser échapper un trophée de coupe de vainqueur de coupe dans cette poule unique où la première place a peu de chances de leur échapper, pour ainsi dire, comme d'habitude.
Juste derrière le club de Luanda, on retrouve les Congolaises de la DGSP, victorieuses des Ivoiriennes de Bandama, score 39 à 26. Deuxième victoire en trois sorties pour le club de Brazzaville, classé deuxième. C'est 38e championnat, marqué par l'absence de certains clubs, notamment les deux représentants de la RDC, la jeunesse sportive de Kinshasa ainsi que Héritage. Alors, Valdo, que s'est-il passé?
Élisée, ici même en RDC, plus d'une personne se pose également la question de savoir réellement les raisons à la base de cette absence remarquée et remarquable du handball congolais. Dans cette compétition de clubs, la jeunesse sportive de Kinshasa et Héritage de RDC, deux clubs qui ont pour tuteurs respectivement les sénateurs Adonis Ngambani et Amos Mbayo, président de la Fédération congolaise de handball et président du comité olympique congolais. Amos est resté pendant plus d'une décennie dans les sillages du ministère des Sports. Il est même devenu ministre des Sports et Loisirs. Pendant tous ces temps, en aucun moment, pareille situation n'a été démise. Une absence qui aura certainement des conséquences fâcheuses sur l'évolution de la JSK, qui a atteint par deux fois le dernier carré de cette compétition et sa participation à celle-ci lui aurait servi des valeurs ajoutées afin de parfaire ce qui n'a pas été. Malheureusement, en plus des absences pour non-tenue de cette compétition pour cause de Covid-19 et des pays hôtes, la série d'arrêts continue pour les clubs de la RDC.
Merci Valdo. La compétition prend fin jeudi prochain. Sporama qui s'achève. Merci de nous avoir suivis dans vos postes radio en FM un peu partout en Afrique. Sur le bouquet Canal Plus numéro 556 ou encore sur notre site internet feoafrique.com. Au revoir.